Alors, je vais commencer avec une devinette, parce que moi, j'aime bien les devinettes. Je ne sais pas si vous aussi. Quel est le point commun entre une ombre, la navette d'un tisserand, un coureur et de la vapeur d'eau? A priori, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Eh bien, ce sont quatre images utilisées dans la Bible pour décrire la fragilité et la brièveté de la vie. Et je vous mets les citations d'où ces images sont tirées. Dans 1 Chronique 29, verset 15, « Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre sans espoir. » Dans Job 7, verset 6, « Plus rapide que la navette d'un tisserand, mes jours s'évanouissent, plus d'espérance. » Toujours dans Job 9, verset 25, « Plus rapide qu'un coureur, mes jours prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. » Et dans Jacques, chapitre 4, verset 14, « En effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » La vie est trop courte. Nous sommes tous vulnérables et allons tous mourir un jour. Ce sont des vérités que nous connaissons tous. Et pourtant, on n'aime pas en parler. Nous sommes dans une société où la mort est devenue tabou. Comme si on voulait garder l'illusion qu'elle n'existe pas. Comme si on gardait une nostalgie des origines quand elle n'existait pas encore. Parce qu'en effet, il n'y avait pas de mort dans le jardin d'Éden. Ce n'était qu'une conséquence de la chute, de l'irruption du péché dans le monde, de la désobéissance à Dieu. Ce refus de voir la mort en face est peut-être d'autant plus fort depuis que l'homme moderne a voulu se débarrasser de toute perspective de vie après la mort. Bon, à ce stade, vous vous dites peut-être, sympa l'ambiance, on va bien se marrer ce matin. Mais rassurez-vous, on ne va pas rester fixé là-dessus. Au contraire, on veut fixer les yeux sur l'éternité. Alors en ce moment, nous sommes dans une série de messages, comme Manu l'a dit, sur le thème « Découvrir la joie de donner ». Nous nous inspirons de ce petit livre de ce pasteur et auteur américain Randy Alcorn, « Le principe du trésor ». La semaine dernière, Manu nous a parlé de la joie de donner. C'est un enseignement si important dont malheureusement on n'ose pas beaucoup parler. Aujourd'hui, nous allons avoir, comme je l'ai dit, les yeux fixés sur l'éternité. Et dans les semaines à venir, on va voir quels pourraient être les obstacles à la générosité, et puis concrètement, par où on peut commencer. Alors, comme je l'ai dit en introduction, notre vie a une fin. Et d'ailleurs, tout sur la terre a une fin. C'est la conséquence du péché, la mort, et tout son cortège de maladies, de vieillesse, d'usure, de souffrance. Mais tout ne se résume pas à cette vie mortelle. La Bible nous parle à plusieurs reprises d'une vie éternelle. Et par exemple, on peut lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » J'ai entendu un « Amen ». Amen. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 25, on apprend que cette vie éternelle est une promesse de Dieu en Jésus-Christ lui-même. Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. Toute vie commence par une naissance. La naissance de notre vie terrestre, tout le monde voit à quoi ça correspond. Mais qu'en est-il de la vie éternelle ? Jésus a parlé d'une nouvelle naissance, une naissance d'en haut. Alors qu'un responsable religieux, juif, Nicodème, était venu le questionner de nuit, il lui a dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau pour pouvoir voir le royaume de Dieu. C'est une naissance spirituelle. C'est l'expérience que font tous ceux dont la vie est transformée par Jésus-Christ. C'est ça, devenir vraiment chrétien, un disciple de Christ. Et en quelque sorte, on peut dire que cette vie éternelle commence pendant notre vie sur terre, alors que nous sommes encore dans ce corps. Et elle se prolongera au-delà de la mort de notre corps. Du coup, on peut dire en quelque sorte qu'on vit une double vie, car on cumule à la fois notre vie terrestre et on a déjà un pied dans cette vie éternelle. Même si aujourd'hui, parfois, on ne s'en rend pas compte parce que, avec ce corps mortel et toute l'imperfection et la souffrance que ça implique, on a du mal à se projeter, mais dans cette vie éternelle dans laquelle on est déjà. Alors attention, j'avoue que l'expression « double vie » peut prêter à confusion. Ici, vous aurez compris qu'on ne parle pas d'un agent double, ou encore moins d'un homme qui a une double vie parce qu'il a une femme d'un côté et une maîtresse ailleurs. Non. Je veux simplement aujourd'hui attirer notre attention sur le fait que le chrétien né de nouveau est impliqué dans deux réalités à la fois. Sa vie terrestre, liée au monde qui nous entoure, et sa vie éternelle dans la communion avec Jésus-Christ et qui perdurera après la mort. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'aimerais maintenant vous parler de trésors et de royaumes. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se dire « Oula, il est passé en mode conte de fées ». Mais rassurez-vous, je vais vous épargner les princesses, les licornes et les preux chevaliers. Commençons avec les trésors. La semaine dernière, Manu nous a lu ces versets du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. On va les relire. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ces paroles sont tirées d'un enseignement de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et Jésus oppose là des trésors sur la terre et des trésors dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'un trésor ? D'après le Larousse, un trésor, alors dans sa première définition, c'est un amas d'objets précieux mis en réserve, souvent cachés. Souvent, on a l'image d'une boîte avec des pièces d'or dedans, comme ce que les pirates cherchent. Deuxième sens, un trésor, ça peut être une chose jugée très précieuse. Mais ici, dans notre texte, on a bien cette image d'amasser des richesses. D'ailleurs, le verbe grec qui a été traduit par « amasser »,« thésaurizo », est de la même racine que celui qui a été traduit par « trésor »,« thésauros ». Un trésor, c'est donc non seulement quelque chose de très précieux, mais quelque chose qu'on amasse. Quelque chose à quoi on est attaché. On y consacre beaucoup de notre attention, peut-être de notre temps, de notre énergie. C'est pour ça que Jésus dit ici, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors Jésus se présente un peu comme un conseiller financier, ou plutôt un conseiller en placement de trésor. Et en gros, il y a deux types de placements. Alors il ne parle pas juste de placement à court terme et placement à long terme, comme votre banquier pourrait le faire, encore que, mais de trésors sur la terre et de trésors dans le ciel. Ce premier trésor, celui sur la terre, est un mauvais placement, car il est fragile. Il peut disparaître du jour au lendemain. Mais le deuxième, ce trésor dans le ciel, est un bon placement. Il est éternel. Il ne peut être ni détruit, ni volé. Mais de quoi parle-t-il, Jésus, quand il parle de ce trésor dans le ciel ? Alors, pour ses auditeurs, les Juifs du 1er siècle, il était clair que la terre désignait le monde physique dans lequel ils évoluaient, et le ciel, c'était leur représentation de là où est Dieu. C'est là-haut, quoi. Là, on ne peut pas voir. À l'époque, il n'y avait pas d'industrie aéronautique et spatiale. Jésus parle même à plusieurs reprises du royaume des cieux. Par exemple, dans les Béatitudes, d'ailleurs c'est dans le chapitre précédent, Matthieu 5, on peut lire par exemple « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et ce qui est intéressant, c'est que là où Matthieu parle de royaume des cieux, dans d'autres évangiles, on a le royaume de Dieu, comme si ça veut dire la même chose. Et Matthieu s'adressait principalement à des Juifs qui avaient du mal à prononcer le nom de Dieu tellement il était sacré. Donc il a interchangé. Donc le ciel, c'est tout simplement là où règne Dieu. Alors, les trésors sur la terre, tout le monde voit assez bien ce que ça peut être. Mais ces trésors au ciel, c'est moins concret. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Jésus ne répond pas explicitement à cette question, mais on peut comprendre que les trésors dans le ciel sont liés à ce qu'on fait, au bien que l'on peut faire, ou plus généralement à notre obéissance à Dieu. Alors, dans le chapitre qui s'appelle « Les yeux fixés sur l'éternité » dans le livre « Les principes du trésor », l'auteur développe cette image de trésor dans le ciel et le compare à un compte en banque qui serait alimenté par nos bonnes œuvres et qui donnerait lieu à des récompenses éternelles. Voilà quelques-uns des versets bibliques auxquels il fait référence pour détailler ces trésors que l'on peut amasser dans le ciel. Premier concerne le fait de faire le bien. Éphésiens 6, verset 8. « Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. » Deuxième idée, plus spécifiquement, faire du bien aux pauvres. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. Troisième manière d'amasser des trésors dans le ciel, persévérer dans la foi. On est encore dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 22-23. « Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. » Quatrième et dernière manière d'amasser des trésors, citée par Randy Alcorn, on est un peu plus loin dans Luc 6, « Vous, au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. » On va revenir maintenant à Matthieu chapitre 6 et à nos histoires de royaume. Qu'est-ce qu'un royaume ? Il y a plusieurs définitions en fait, plusieurs sens. Mais celui qui nous intéresse le plus ici, on peut dire que c'est la sphère où règne un roi. D'ailleurs, il serait peut-être plus précis de parler de règne que de royaume, mais ça fait un peu moins conte de fées. Alors, pour revenir au discours de Jésus sur la montagne, On va aller maintenant à la fin du chapitre 6. Jésus dit qu'on ne peut pas être au service de deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent, qui est d'ailleurs, dans certaines traductions plus littérales, l'argent est personnifié sous le nom de Mammon, qui serait comme une divinité araméenne. Et on peut, quand on lit ça, on peut naturellement faire un parallèle entre les trésors sur la terre et dans le ciel qu'on a vu avant et deux royaumes ou deux règnes. Le règne de l'argent et le règne de Dieu. Si on réfléchit à comment fonctionne le monde dans lequel nous vivons, où la finance a pris une très grande importance, il est facile de l'identifier à un royaume ou un règne de l'argent. Celui-ci s'oppose alors au royaume ou au règne de Dieu. Et si on veut comprendre où Jésus voulait en venir, on peut aller directement à l'avant-dernier verset de ce chapitre qui dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses, alors dans le contexte, c'est la nourriture, le vêtement, etc., vous seront données en plus. » Ce verset et le passage dans lequel il s'inscrit a littéralement changé ma vie. Regardez ce dessin. Alors vous voyez peut-être pas grand-chose, mais je vais vous le décrire. Il n'a pas une grande valeur artistique, je le reconnais. Mais pour moi, il est vraiment collector. Je vais vous raconter son histoire. J'avais 17 ans. Je faisais un camp chrétien l'été. Et l'un des axes de ce camp, c'était d'apprendre à animer des études bibliques entre lycéens. On essayait une nouvelle méthode qui consistait à transformer ce qu'on a compris d'un texte biblique en dessin. Le concept est simple et rudement efficace. Et donc ici, à gauche, vous avez un homme qui travaille dur dans les champs. Comme dans un potager, il y a des rangées avec une pancarte indiquant ce qui est semé dans chacune de ces rangées. Et on peut y lire, alors vous ne devez pas réussir à lire depuis là où vous êtes, habits, boissons, nourriture, argent, etc. Et à droite, on a un promeneur qui marche le long d'un chemin qui monte avec une pancarte au bout qui indique la destination de ce voyage, royaume de Dieu. Comme l'homme qui est à gauche, cet homme à droite fournit un effort, ce chemin monte. Mais il n'est pas en train de fournir un effort pour trouver de la nourriture, du vêtement ou de l'argent, mais on voit une grande main sur le bord du chemin qui lui donne ce dont il a besoin. Un peu comme un ravitaillement dans un marathon. Ce contraste entre ces deux hommes, m'avait soudain sauté à la figure. Je me suis reconnu dans cet homme qui est à gauche. Parce que j'étais sans cesse préoccupé par mes études, par mon avenir professionnel, qu'est-ce que j'allais devenir. Et ça prenait non seulement tout mon temps, parce qu'au lycée, j'avais beaucoup de travail, mais aussi toutes mes pensées revenait toujours à ce sujet. On peut dire que j'étais obsédé par l'inquiétude que j'avais pour mon avenir. Et donc, c'était devenu tellement la priorité qu'il fallait d'abord que je règle ça, ces questions d'avenir, avant de pouvoir envisager quoi que ce soit, et notamment de servir Dieu, par exemple. Et j'avais compris ce jour-là, quand j'ai fait ce dessin, que mon raisonnement était mauvais, que je raisonnais à l'envers. Si je consacrais ma vie à travailler pour me nourrir, me vêtir, gagner de l'argent, tout ce que je récolterais, au mieux, ce serait de la nourriture, du vêtement et de l'argent. Ok ? Mais si, comme cet homme à droite, j'obéissais à l'appel de Jésus à chercher le royaume de Dieu, non seulement j'aurai la nourriture, le vêtement et l'argent dont j'aurai besoin, puisque Dieu me ravitaillerait, mais ma vie aurait du sens, car elle serait vécue dans l'obéissance à cet appel. Alors, je connaissais bien ce verset depuis tout petit, je le chantais même. Mais là, tout d'un coup, ça m'avait sauté à la figure, comme j'ai dit. Et je ne pouvais pas faire autrement que de prendre Jésus au mot. C'était un véritable déclic. J'ai donc décidé de lâcher prise, lâcher mes inquiétudes et faire confiance à Dieu. Ma priorité devenait donc de servir Dieu, de servir son royaume. Et lui, son taf, ce serait de veiller à me fournir ce dont j'aurais besoin. D'ailleurs, peut-être qu'il a une meilleure idée de ce dont j'ai vraiment besoin que ce que moi je peux avoir comme idée. Alors, pour vous dire très concrètement, comment ça a changé ma vie ? Peu de temps après ce camp, j'entrais en terminale. Alors à l'époque, on avait terminale S. C'était la dernière ligne droite avant le bac, avant l'orientation professionnelle. Il fallait avoir un bon dossier pour être pris ici ou là. Donc on peut dire que j'avais vraiment une grosse pression pour beaucoup de travail. Mais, fort de cette expérience, je me suis dit « Ok Seigneur, je te laisse prendre le contrôle. Je t'ai pris au mot. Donc ma priorité, c'est donc de te servir. » Donc il n'y avait plus de « Oh, j'ai pas le temps !» Donc cette année-là, j'ai dû prendre des responsabilités dans le club biblique qu'il y avait dans mon lycée, parce que les plus âgés étaient partis, et donc ça m'apprenait pas mal de temps dans la semaine pour animer, pour préparer, pour m'occuper de ces études. Il y avait aussi des rencontres entre clubs bibliques des différents lycées de la ville, où j'étais très actif, donc parfois ça me prenait des week-ends, alors que normalement chaque heure était comptée pour bosser. Mais j'avais compris que c'était la priorité de ce à quoi Dieu m'avait appelé. Un peu plus tard, j'ai dû démarrer un groupe de jeunes dans mon église tous les samedis soirs. Ça présente quand même du travail. Mais je savais que c'était la volonté de Dieu et j'avais la paix. Et figurez-vous que Dieu a tenu ses promesses. Certes, je continuais à faire ma part, de travailler sérieusement comme je le pouvais. Mais même si j'avais travaillé moins d'heures que ce que je faisais avant, mes résultats s'étaient nettement améliorés. Mes concours ont marché de manière inattendue. Parfois, je me suis dit, mais il y a eu un bug dans les notes ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Dieu avait ouvert les portes. Il m'a dit, je te mets au défi, obéis-moi, suis-moi, je m'occupe du reste. Qu'est-ce que c'est libérateur ? Comme on avait pu le lire dans ce verset, toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu tient vraiment ses promesses et je suis là pour vous en témoigner ce matin. Alors, je viens de vous donner un exemple, mon témoignage, sur comment avoir les yeux fixés sur l'éternité ou chercher le royaume de Dieu, comment cela affecte la gestion de notre temps. De la même manière, on va voir maintenant comment cela doit aussi affecter la gestion de notre argent ou de nos biens matériels. C'est d'ailleurs le cœur du message du livre « Le principe du trésor » qu'on lit en ce moment. Et j'aimerais simplement maintenant vous lire l'extrait d'un autre livre qui m'a beaucoup marqué à ce sujet. Ce livre s'appelle « Disciples ». Ça a été écrit par un pasteur argentin qui s'appelle Juan Carlos Ortiz. Je crois que c'était un peu un best-seller dans les milieux chrétiens il y a quelques dizaines d'années. Alors, je lis un extrait. « Et quand nous trouvons Jésus, cela nous coûte tout. En lui sont le bonheur, la joie, la paix, la guérison, la sécurité, l'éternité, tout. Alors nous disons, je voudrais cette perle, c'est combien ? » Eh bien, le vendeur dit, « Ah, il est très cher. Mais combien ? » ?»« Une somme considérable. Et pensez-vous que je puisse l'acheter ? » ?»« Oh oui, bien sûr. Tout le monde peut l'acheter. Mais ne m'avez-vous pas dit qu'elle était très chère ? » ?»« Mais oui. Mais alors, combien ? » tout ce que vous avez, dit le vendeur. Nous prenons notre décision. D'accord, j'achète. Alors, voyons ce que vous avez. On va établir une liste. Bien, j'ai 60 000 euros à la banque. C'est bien 60 000 euros. Et quoi encore ? Bah, c'est tout ce que j'ai. Vraiment tout ? Eh bien, j'ai quelques pièces dans ma poche. 5, 10, 30, 50, 75, voilà, 75 euros. Très bien. Qu'avez-vous encore ? Rien, c'est tout. Où habitez-vous ? Chez moi, oui, j'ai une maison. Alors on va noter la maison aussi. Vous voudrez dire qu'il faut que je vive dans ma caravane ? Ah, vous avez une caravane. Alors cela aussi. Et quoi encore ? Il faudra que je dorme dans ma voiture. Ah, vous avez une voiture ? Deux. Deux ? Alors les deux me reviennent. Quoi encore ? Regardez, vous avez déjà mon argent, ma maison, ma caravane, mes voitures. Qu'est-ce qu'il vous faut encore ? Il ne me reste plus rien. Tout d'un coup, le vendeur s'exclame. Ah, j'allais presque oublier. Vous ? Il me reste. Il me faut vous aussi. Tout me revient. Maison, argent, voiture, et vous aussi. Puis, le vendeur continue. Écoutez-moi maintenant. Je vais vous laisser la jouissance de toutes ces choses pour le moment. Mais n'oubliez pas qu'elles sont à moi, comme vous aussi. Donc, toutes les fois où j'aurai besoin de l'une d'entre elles, vous devrez la mettre à ma disposition. Parce que désormais, j'en suis le propriétaire. Voilà comment ça se passe quand vous devenez la propriété de Jésus-Christ. Alors, quand j'ai entendu ce passage la première fois, ça m'avait sonné. Ça change notre manière de voir notre vie. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie à moitié. Ça ne dit pas que Dieu veut que nous nous dépouillions complètement pour vivre dans la poussière dehors. Ça ne dit pas non plus qu'on doit donner à Dieu un petit quota de notre propriété ou notre argent. Et puis avec le reste, on fait ce qu'on veut, c'est à nous quand même. La logique de la vie chrétienne, c'est que quand on se donne à Dieu, quand Jésus-Christ devient notre Seigneur, 100% de ce qui est à nous ou ce qui nous est confié lui appartient. On en a le bénéfice et l'usage, mais simplement comme des gestionnaires de la grâce de Dieu. Comment est-ce que ça se voit dans la gestion de mes biens ? Enfin, mes biens, je veux dire, les biens que Dieu m'a confiés. Je vais maintenant conclure. On a vu que, comme chrétiens, nous sommes impliqués actuellement dans ce que j'ai appelé une double vie. Une existence terrestre, qui est encore en cours, et une vie éternelle, avec une nouvelle identité d'enfant de Dieu qui a déjà démarré depuis la nouvelle naissance. Nous sommes ainsi à la portée de deux royaumes. Un royaume terrestre, qui est gouverné par l'argent, et un royaume céleste où Dieu règne. Vivre en chrétien, c'est-à-dire en disciple de Jésus-Christ, c'est vivre pour le royaume de Dieu, tout en étant pleinement présent et impliqué dans le monde terrestre imparfait. Dans cette situation, nous pouvons choisir là où nous plaçons notre trésor, comme on l'a lu tout à l'heure. Où est-ce que nous amassons nos richesses ? Et ce choix, Jésus l'a décrit comme une alternative entre un placement douteux, risqué, d'un trésor qui va tôt ou tard partir en fumée, et un placement sûr qui durera pour l'éternité. Comment cela se décline-t-il dans notre manière de gérer nos vies ? Où est notre trésor ? Où plaçons-nous notre argent, notre temps, nos relations, nos compétences, nos espoirs ? J'aimerais maintenant m'adresser à toi qui luttes avec ces idées. Tu ne te sens pas prêt à lâcher l'affaire. Peut-être as-tu peur de lâcher la proie pour l'ombre. Toutes ces promesses, est-ce que ce n'est pas juste vendre du rêve ? N'est-ce pas une sorte d'opium du peuple, comme le disait Marx ? Ou encore pire, un moyen d'extorquer de pauvres crédules prêts à se précipiter sur ce rêve ? J'aimerais te lancer un défi. Celui d'évaluer la vie de gens qui ont fait l'un ou l'autre de ces choix. Si tu regardes à des chrétiens qui ont compris cet enseignement du royaume de Dieu et qui le mettent en application, sont-ils plus pauvres ou plus malheureux suite à ce choix ? Ou à l'inverse, ceux qui rejettent une telle idée et qui placent tous leurs œufs dans les trésors terrestres, sont-ils vraiment plus riches ou plus heureux ? La vie chrétienne est une vie de foi. Et la foi, ce n'est pas juste une croyance intellectuelle, mais c'est une conviction qui engage à l'action. Et je vous laisse avec cette dernière citation biblique tirée de la galerie des héros de la foi qui nous est dressée au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, que je vous invite à relire chez vous en entier. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu, plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. La vie de Moïse a été extraordinaire. Son impact a été décisif dans la vie du peuple d'Israël et encore aujourd'hui pour d'autres peuples comme nous. Il n'en serait rien s'il n'avait pas fait confiance en Dieu et s'il s'était contenté de profiter tranquillement des privilèges et du confort que lui aurait apporté sa situation de prince au palais du Pharaon. Et probablement qu'il serait un parfait inconnu aujourd'hui s'il avait fait un tel choix. L'appel que je nous adresse ce matin, c'est d'avoir comme Moïse les yeux fixés sur la récompense à venir, les yeux fixés sur l'éternité. Je vous invite à vous lever pour terminer dans la prière. Oui, Père, merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant qui a tout créé, qui possède tout. Et merci parce que tu nous appelles à te faire confiance et que cette confiance n'est pas un saut dans le vide, dans un précipice, mais un saut dans ta main ferme, solide, sûre. Merci parce que ce que tu veux, ce n'est pas nous appauvrir ou nous rendre tristes. Au contraire, tu veux que nous puissions jouir de tes richesses. Merci parce que tu nous offres une perspective bien meilleure que la vie que nous pouvons connaître ici sur cette terre. Merci parce que tu nous promets de pouvoir vivre l'éternité avec toi pour peu que nous acceptions ce cadeau que tu nous fais. Seigneur, ce matin, je veux te prier en particulier pour ceux d'entre nous qui sont en lutte avec ces idées, qui sont en lutte avec le choix de la foi. Seigneur, je te prie pour que tu continues ton œuvre de toucher les cœurs comme tu as touché le mien et celui de tant d'autres chrétiens. Et merci parce que ce saut, non pas dans le vide, mais dans ta main, dans tes bras, il est tellement libérateur. Merci pour la paix que tu donnes à tes enfants. Merci pour la joie que tu donnes malgré les épreuves. Merci parce que c'est tellement bon d'être ton enfant. Et je te prie pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux à l'expérimenter ensemble. Sois honoré, sois glorifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen.